France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Noé Chabanne. C'est le dernier épisode de notre série sur les nouveaux bastions du djihadisme dans le monde. Ces groupes qui, pour la plupart aujourd'hui, sont dans des logiques nationales, s'adaptent aux contextes locaux et tentent de déstabiliser les États, mais pas l'État islamique qui, lui, mène un djihad sans frontières, en particulier une branche de Daesh, la branche la plus active, l'État islamique au Khorasan.
L'explosion s'est produite dans la province de Balkh. La première explosion s'est produite dans le 5e district et deux autres dans le 10e. Malheureusement, dans ces trois explosions, 9 civils ont été tués et 15 autres ont été blessés.
150 moscovites sont morts dans un attentat terroriste dont les auteurs étaient 4 ressortissants du Tadjikistan. Vous comprenez ?
La menace posée par l'État islamique du Khorasan a entraîné une augmentation des niveaux de menace en Europe. Le groupe est considéré comme la plus grande menace terroriste extérieure pour le continent.
Quand il y a 10 ans, jour pour jour, Paris plongeait dans une stupeur d'acier déchiré, le fracas des armes à feu, les bombes humaines jetées sur la foule, les cris d'un autre âge. Quand on a compris ce jour-là combien des hommes peuvent être attirés par un feu qui ne vient pas du soleil, le feu d'une foi qui libère totalement de la peur de la mort. Ce jour-là, le 13 novembre 2015, on ne parlait pas encore de l'État islamique au Khorasan. C'est pourtant cette branche-là de Daesh qui, 10 ans plus tard, représenterait pour l'Europe la plus lourde menace. Le 26 octobre dernier, un jeune homme a été arrêté à Lyon. 20 ans, afghan, il est soupçonné d'être un relais de l'État islamique au Khorasan en France. La France, l'Europe, ce qu'on peut appeler pour l'État islamique son étranger lointain. Car le Khorasan, c'est une région à cheval sur l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et l'Iran. C'est en Afghanistan que l'État islamique au Khorasan, le IK comme on l'appelle, est le plus actif. Et ce, depuis la chute, il y a 6 ans, du califat en Syrie et en Irak. De toutes les organisations djihadistes dont on parle cette semaine, l'État islamique est celle dont le champ d'action est le plus vaste, un djihad international et sans frontières, visant aussi bien les États chiites comme l'Iran, l'étranger proche comme les talibans afghans, le régime pakistanais, l'étranger lointain, l'Europe, mais principalement en vérité la Chine et la Russie. Pour quelles raisons ? Comment recrute-t-il des combattants originaires principalement aujourd'hui d'Asie centrale ? Quelles sont les ressources techniques, financières, humaines qui lui permettent de frapper aussi loin de sa base ? Bonjour Didier Chaudet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géopolitologue, spécialiste de l'Afghanistan et de son environnement régional. Vous êtes rattaché à l'Observatoire de la Nouvelle Eurasie, également membre du comité de rédaction de la revue Défense Nationale. Alors, vous êtes basé à Hong Kong, mais on a beaucoup de chance parce que vous êtes de passage à Paris pour 2 jours. On en a profité pour vous amener ici presque de force en studio pour que vous nous parliez de l'État islamique du Khorasan que vous connaissez très bien. Didier Chaudet, jusqu'où faut-il remonter d'abord pour comprendre qui est le IK, s'il n'existe officiellement que depuis fin 2014, début 2015, donc au moins 8 ans après la création de l'État islamique d'Irak, est-ce qu'il faut aller voir du côté de la résistance islamique à l'occupation soviétique de l'Afghanistan dans les années 80, où les racines de l'État islamique ne sont pas en Afghanistan aussi loin qu'on les suive ?
Il faut regarder en fait des deux côtés. Les racines d'un groupe comme le IK sont multiples. Vous avez bien sûr le développement en Afghanistan et au Pakistan. Mais le développement en Afghanistan et en Pakistan commence dans les années 80, quand notamment l'Arabie Saoudite finance des madaris, des écoles religieuses, insuffle le wahhabisme et forme des gens à cette vision très étrangère en fait de l'islam en Afghanistan et au Pakistan. Tout ça sème des graines. des groupes se forment, des groupes djihadistes combattent et voient à un moment ce groupe apparaître au Proche-Orient, qui semble bien organisé, bien financé, et qui relance le vieux fantasme d'un califat, d'un territoire qui serait véritablement tenu par un groupe djihadiste. C'est ce qu'Al-Qaïda avait mis de côté pendant très longtemps, parce qu'elle considérait que c'était une vision d'avenir, certes, mais d'abord il fallait combattre les États-Unis. Le Daesh s'est construit de façon un petit peu différente. Daesh, c'est une logique de lutte qui ne se limite pas aux États-Unis. Daesh est un groupe du monde multipolaire, alors que Al-Qaïda, c'est vraiment une logique du monde unipolaire.
Donc avec un ennemi désigné par Ben Laden à l'époque, qui était vraiment les États-Unis, l'État islamique a une logique assez différente et il est surtout né, cet État islamique au Khorasan, né de la guerre en Syrie. Pourquoi, à partir de 2012, des talibans vont partir vers la Syrie ou d'anciens talibans vont s'engager dans l'État islamique pour aller combattre le régime de Bachar al-Assad en Syrie?
La situation est assez particulière. Là, il faut faire un peu de micro. Al-Qaïda a envie de faire un peu plus d'argent, notamment dans la péninsule arabique, a envie d'avoir une certaine visibilité, de s'implanter aussi un peu plus en Afghanistan, à une époque où ils ont des problèmes avec le Taliban, les talibans canal historique, la Shura de Quetta. Sauf que depuis la mort du Mollah Omar, les talibans se sont un petit peu fracturés en Afghanistan. Donc pour Al-Qaïda, c'est aussi le moment de recruter un peu plus du côté des talibans pakistanais avec lesquels ils ont des liens depuis le départ, depuis la fin de la décennie 2000. Il faut aussi se rapprocher d'autres groupes comme le réseau Haqqani qui en fait accepte de donner des hommes pour eux donner des combattants, ça ne coûte pas bien cher. Par contre, recevoir de l'argent pour ces combattants, c'est une bonne affaire pour eux. Et vous avez une autre choura qui est plus dans le nord, qui s'est distancée des talibans canal historique et qui eux aussi envoient des combattants en Syrie notamment. En se disant, on gagne de l'argent et nos combattants aussi gagnent de l'argent. Parce qu'en fait, un talib qui va combattre en Syrie gagnait à peu près à l'époque 800 dollars par mois, ce qui était trois fois plus que ce qu'il gagnait en Afghanistan à combattre les Américains.
Qui les paye, les 800 dollars par mois?
Ça, cet argent vient d'un certain nombre de donations qui viennent notamment de la péninsule arabique, mais pas seulement. Et justement, le fait de faire beaucoup de pubs autour de ces questions-là permet de recevoir encore plus d'argent. Donc, il y avait déjà un trésor de guerre du côté d'Al-Qaïda, parce qu'Al-Qaïda était revenu en force avec la guerre d'Irak. Rappelons qu'Al-Qaïda était morte fin 2001 et a été ressuscitée par l'administration Bush en 2003. C'est assez magique. Et ensuite, on a eu la multiplication des pains. Al-Qaïda existe encore et Daesh a été créé ensuite.
Al-Qaïda existe encore malgré la mort d'Oussama Ben Laden en 2011. Donc, des talibans se désistent, entre guillemets, du mouvement taliban pour partir combattre en Syrie pour les raisons notamment financières que vous nous expliquez, Didier Chaudet, plutôt que de continuer à se battre en Afghanistan. D'ailleurs, l'Afghanistan, et à ce moment-là, c'est encore Hamid Karzai qui est président, proche allié des États-Unis, qui a laissé les troupes états-uniennes prendre leurs aises dans le pays. Ces talibans pourraient se dire que leur combat continue contre les États-Unis. Or non, ils choisissent d'aller se battre en Syrie. Pourquoi un jour rentrent-ils en Afghanistan plutôt que rester en Syrie, puisque ce sont eux qui vont commencer à semer les graines, ou en tout cas en récolter le fruit, de l'État islamique au Khorasan?
En fait, ils ne comptaient pas rester pour toujours. Ils comptaient rester un certain temps et les groupes talibans ont un petit peu arnaqué, entre guillemets, Al-Qaïda. C'est-à-dire qu'ils devaient envoyer des combattants bien formés, anciens, et ils ont envoyé plutôt des jeunes, des gens qu'ils ont formés un petit peu à la va-vite et en Afghanistan et dans les zones tribales pakistanaises avant de les envoyer. Donc ils ont récolté l'argent et ils ont gardé leurs combattants les plus habiles, les mieux formés. Ces combattants ne devaient jamais rester sur place pour toujours. Ils devaient aider à une certaine poussée pendant un certain temps. Et sur place, ils ont été attirés par le discours de l'État islamique. Très souvent, ils sont arrivés avec Al-Qaïda et ils ont abandonné Al-Qaïda pour se tourner vers l'État islamique.
Parce qu'il est si différent de ça, à l'époque, déjà, le discours de l'État islamique par rapport à Al-Qaïda?
Oui, en fait, très vite, on voit des différences assez fortes. Par exemple, Al-Qaïda se concentre véritablement sur les États-Unis. Ça n'est pas le cas de Daesh. Daesh se concentre beaucoup, en particulier, sur l'Iran. Il y a une haine du chiite. Et du coup, à partir de là, il y a une haine de tout ce qui n'est pas l'islam salafiste. Ils combattent ce qu'ils appellent les mortadines, les apostats. Et en fait, est apostat quiconque ne voit pas l'islam comme eux, ce qui fait beaucoup de monde.
Donc l'État islamique restaure l'antichisme contre lequel avait mis en garde au contraire Ayman al-Zawahiri, le numéro 2 d'Al-Qaïda à l'époque, dans une lettre en 2005 qui arguait de ce que les attaques contre les chiites pouvaient dissuader les masses de rallier la cause djihadiste. L'État islamique restaure cet antichisme-là. Donc ceux qui se sont battus en Syrie rentrent en Afghanistan. Est-ce qu'ils vont être en Afghanistan et au Pakistan dans une démarche prosélytes pour convaincre les sympathisants d'Al-Qaïda de les rejoindre, ou directement ils sortent les armes pour les convaincre par la force? Comment se passe ce transfert qu'on va observer de combattants d'Al-Qaïda vers l'État islamique?
En fait, il s'agit de convertir des commandants clés. On a souvent dit que le IK avait été formé d'abord par des membres des talibans pakistanais, parce qu'on a tendance à cibler le Pakistan comme source de tout mal dans l'analyse de la région, ce qui est une erreur. En fait, vous avez eu un certain nombre de personnes au sein d'Al-Qaïda. Pourquoi Al-Qaïda s'est beaucoup amoindri aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, ils sont passés à Daesh, à l'État islamique, au Khorasan, ceux qui se trouvaient en Afghanistan en tout cas. Vous avez bien sûr des talibans pakistanais, mais vous avez aussi des gens du réseau Haqqani. Et souvent, ce sont des commandants...
Donc ce réseau Haqqani, c'est ce dont vous nous parliez tout à l'heure, qui est né dans les années 80.
Voilà, et qui était la force de frappe clé des talibans dans la guerre contre les Américains. Et en fait, vous avez des commandants qui pouvaient être assez ambitieux, des gens assez jeunes qui voulaient déloger leurs aînés et qui du coup se voyaient passer du côté de l'État islamique pour pouvoir s'imposer. Mais il y a aussi une question idéologique, c'est-à-dire que du côté des talibans, à cette époque-là, on commence à tenir des propos véritablement nationalistes. On se concentre sur l'Afghanistan. Et vous pouviez avoir un discours qui pouvait apparaître dans cette logique-là aussi du côté des islamistes en Syrie. L'État islamique au Khorasan et l'État islamique tout court arrivent en disant « nous restons des purs, la nation est un ennemi, on se concentre sur la lutte, sur la guerre de civilisation en fait ».
Donc ça marche manifestement, l'État islamique cherche des combattants d'Al-Qaïda qu'ils peuvent retourner, entre guillemets réussissent à les retourner, sur des arguments d'idéologie que vous venez de nous décrire Didier Chaudet, ou nous développer, mais aussi de plan de carrière, entre guillemets, c'est-à-dire c'est un plan de carrière de passer d'Al-Qaïda à l'État islamique.
Il s'agit de monter en puissance, on espère beaucoup plus d'argent venant notamment de la péninsule arabique. Et il s'agit aussi de déloger des aînés. Des commandants un peu plus anciens ont du mal à mourir, résistent assez bien aux troupes américaines et afghanes de l'époque. Donc peut-être les déloger pour prendre leur place serait une bonne idée. Dans ces affaires-là aussi, vous avez des combats de commandants sur des questions de trafic de drogue notamment. Donc vous avez l'idéologie bien sûr, mais vous avez une vision politique, vous avez une vision pécuniaire, vous avez aussi une vision géopolitique. L'idée de ne pas vouloir en rester à l'Afghanistan est quelque chose qui s'était toujours retrouvé chez les talibans les plus idéologiques. Reprendre Bukhara et Samarkand, repousser les Russes
plus
encore.
Donc on a dit centrale également.
Voilà. Déstabiliser le Pakistan, qui était l'idée d'Al-Qaïda au début de la guerre contre le terrorisme. Vous aviez eu tout un certain nombre de travaux théologiques disant que le Pakistan devait être détruit comme État islamique. Donc en fait, les talibans reprennent tout ça et ils disent « nous n'avons pas changé, nous restons des purs, et vous êtes les mortadines, vous êtes les apostats, vous avez décidé de devenir des nationalistes, la nation est péché, donc on combat la nation, et on vous combat, vous les talibans ».
J'imagine que le fait qu'à un moment les États-Unis réussissent à convaincre les talibans d'engager des discussions à Doha pour parler de l'Afghanistan après le retrait des troupes états-uniennes, ça a dû aussi inciter pas mal de talibans à rejoindre les rangs de l'État islamique.
Il y a toujours eu cette tentation-là, dès qu'il y a eu un dialogue plus nationaliste dès l'époque du Mollah Omar, ou soi-disant du Mollah Omar, en fait il était déjà mort, mais c'était des discours qui étaient mis à son nom. Et bien sûr, dans ces moments-là, il y a toujours eu cette peur du côté des talibans de voir leur marge la plus idéologique partir. C'est ce qui explique un certain nombre de tensions, y compris actuellement. On ne peut pas trop se modérer si on a peur de voir des commandants importants, des commandants solides dans un certain nombre de régions passer du côté de l'EIK. Et c'est toujours un risque aujourd'hui.
aujourd'hui, alors que les talibans ont repris le pouvoir en 2021, ont repris Kaboul et l'Afghanistan, et qu'en effet des dissensions existent au sein du régime entre les plus rigoristes et ceux qui voudraient lâcher un peu de lest, ne serait-ce que pour avoir un soutien, une reconnaissance internationale. Alors quand, Didier Chaudet, apparaissent les premières recrues de l'État islamique qui ne viennent ni d'Afghanistan ni du Pakistan, mais des pays au nord de l'Afghanistan, en Asie centrale, et je pense d'abord aux pays qui ont vraiment une frontière avec l'Afghanistan, donc Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan.
Ça s'est fait en deux temps. Tout d'abord, avant 2021, vous avez eu l'État islamique au Khorasan qui a fait ce qu'il a fait avec d'autres groupes dans la région, une OPA non agressive. On arrive, on a la même idéologie, on est mieux armé, on est bien positionné à l'international. On vous promet plus d'argent, il est plus intéressant de travailler directement avec nous, de s'intégrer directement avec nous. Et comme on sait frapper fort et on sait marquer les médias occidentaux, vous aurez plus de visibilité. Donc c'est ce qu'ils ont fait, notamment avec le mouvement islamique d'Ouzbékistan, qu'ils ont en partie récupéré. Le mouvement islamique d'Ouzbékistan, c'était des djihadistes de la fin des années 90, qui venaient notamment d'Ouzbékistan, un petit peu du Tadjikistan, qui avaient été chassés du Tadjikistan. Il y avait eu une guerre civile là-bas à l'époque, qui s'était terminée en 1997, par une paix de compromis. Ils ont dû se réfugier en Afghanistan pour éviter les problèmes. Quand le régime de Mollah Omar est tombé, ils se sont retrouvés au Pakistan. Ils ont fait un certain nombre d'attaques très très dures au Pakistan même. On pense à l'attaque contre l'aéroport de Karachi en août 2014. Et par la suite, ils se sont rendus compte que pour survivre, ils devaient se raccrocher à un groupe comme l'État islamique au Khorasan. Par la suite, après 2021, vous avez des recrues assez fraîches qui ont été recrutées clairement à partir de 2022, et venant particulièrement du Tadjikistan, mais aussi d'Ouzbékistan. Ce sont des gens qui rejettent le régime en place, qui ont été marqués aussi par un certain nombre de difficultés quand ils ont travaillé en Russie. Et en fait, ici, l'État islamique au Khorasan a repris des réseaux djihadistes un peu clandestins qui existaient en Russie dans la décennie 2010.
On en parlera d'ailleurs tout à l'heure en focus avec Lucas Aubin. En tout cas, Didier Chaudet, on entend bien qu'il est réducteur de dire que l'État islamique au Khorasan, c'est la branche afghane de Daesh. C'est une branche de Daesh, point, avec par ailleurs beaucoup de combattants d'Asie centrale. État islamique, donc, c'est un État qui dit État, dit structure administrative. Qui est le chef de cette structure aujourd'hui dans le Khorasan? Et vous m'en voulez pas dire Khorasan, on peut dire Khorasan parce que vous le dites beaucoup
en
mieux.
En fait, Khorasan, ça peut être la prononciation d'origine, dire Khorasan, parce que c'est la façon dont on le lit en français, c'est tout à fait normal.
Bon, ça va.
Vous avez un certain nombre de puristes qui vont s'appuyer là-dessus, c'est vraiment pas le plus important. C'est important de le dire.
Et est-ce qu'il est important de connaître le nom alors du je ne sais pas si on parle de calife quand on parle des branches de l'État islamique?
C'est le leader, c'est le guide, c'est Shahab al-Muhajir. Maintenant, en fait, oui, le personnage lui-même est intéressant parce que, bon, bien sûr, c'est toujours assez amusant parce que souvent les gens ne connaissent qu'une des deux biographies, parce qu'en fait, il y en a deux, et vont dire mordicule ce qu'ils connaissent totalement toute sa vie, alors qu'en fait, on a deux personnages mis sous le même nom. Et on est obligé de faire avec.
C'est-à-dire, c'est la même personne en une ou ce sont des homonymes? J'ai pas compris.
En fait, c'est tout simplement le fait qu'on ne sait pas exactement qui il est,
d'accord,
mais on a eu des pistes divergentes qui sont répétées selon les personnes. Certains vont dire que c'est un Tadjik qui a travaillé pour l'armée afghane d'origine, celle que nous avons contribué à construire, et qui a été un gars dans la garde rapprochée de chefs de guerre comme Dostom et des chefs de guerre tadjiks ou ouzbeks. D'autres vont vous dire que c'est un Pashtoun qui vient d'une famille djihadiste assez ancienne, qui avait combattu déjà dans les années 80 du côté d'Ekmatyar. Donc on part d'un profil totalement différent. On passe d'un Tadjik à un Ouzbek, du nord au sud de l'Afghanistan. Et quelqu'un qui aurait combattu un temps du côté des réseaux Haqqani, donc plus dans l'armée afghane. Et qui, à partir de là, aurait pu développer un certain nombre de contacts. Dans les deux cas, en fait, on est face à un profil qui a réussi à sauver le mouvement. Parce qu'en fait, face à ces groupes-là, il ne faut jamais imaginer que ces mouvements-là sont tout puissants. On parle de groupuscules. 4000, 6000 personnes, c'est ce qui est mis en avant le plus souvent.
C'est beaucoup quand même.
C'est beaucoup, mais sur des populations de plusieurs millions, ça n'est tout simplement rien. Mais comme ce sont des gens déterminés, et comme très souvent, ils vont recruter aussi de façon locale, donc ce sont des enjeux locaux parfois qui amènent des gens à se tourner vers l'État islamique au Khorasan, en Afghanistan ou au Pakistan. Et ces gens-là ne vont pas forcément tous penser à l'idéologie de la même manière. Vous avez eu sans doute dans le nord-est de l'Afghanistan une quinzaine de milliers de combattants de l'État islamique au Khorasan qui ont été liquidés entre 2015 et 2021-2022, en particulier par les talibans, par l'État pakistanais, par l'État afghan, par les Américains. Mais dans cette masse-là, vous n'avez pas des théologiens aguerris. Très souvent, ce sont des gens qui réagissent à des situations locales. Donc vous avez ce leader qui a été évoqué, un petit peu énigmatique, mais qui a l'air d'être bien formé et qui a sauvé un petit peu le mouvement à un moment où il était dans une situation difficile. Fin 2019, début 2020, vous avez énormément de combattants de l'État islamique au Khorasan qui se rendent directement à l'État afghan. Parce qu'en fait, ils savent que si les talibans les attrapent, le jugement va être plus rapide, on va dire. Donc ils étaient envoyés en prison, ils ont été d'ailleurs libérés en partie par l'État islamique au Khorasan plus tard. Et c'est ce leader-là qui a réussi à calmer un peu le jeu, faire des attaques plus ciblées au niveau urbain. Il a transformé vraiment le groupe en groupe terroriste urbain plutôt que d'essayer de tenir des territoires à tout prix. Qui a été vraiment la grande logique de l'État islamique au Khorasan, la période 2016-2019, c'est la période où ils essayent de s'implanter au nord-est de l'Afghanistan, parce que vous avez ce qu'on appelle les montagnes blanches, vous avez une difficulté de contrôle sur ce territoire. Lui l'a vraiment transformé en groupe terroriste. Mais en fait, vous avez à côté de ça une structure administrative qui, à mon sens, est plus importante que le leader lui-même.
Avec des groupes régionaux qui s'occupent du financement, par exemple, on parlait hier de la Somalie, où se trouve la sous-section Afrique de l'Est de l'État islamique. C'est de là que vient l'argent, enfin une grande partie de l'argent de l'État islamique du Khorasan. Pourquoi ça vient de la Somalie?
Sur la période 2022-2024, parce que l'État islamique au Khorasan, c'est ceux qui font le plus de publicité au mouvement actuellement.
Ce sont quand on dit publicité, c'est les attentats.
Ouais, c'est les attentats, c'est les grands coups, c'est la violence. Mais malgré tout, il faut financer ces combattants. Les combattants ont un salaire. Ils ne vivent pas que de haine et d'eau fraîche. Ce sont des gens qui ont besoin de se financer. Ce sont des professionnels pour un certain nombre d'entre eux au bout d'un certain nombre d'années. À l'est de l'Afrique, autant que je sache, ils n'étaient pas très bons en termes de recrutement de combattants et de visibilité aussi. Mais par contre, ils étaient très proches avec l'État islamique, canal historique, Irak-Syrie. Et ils étaient très bons en termes de business, y compris légaux. Donc en 2023, vous aviez 25 000 dollars par mois à peu près qui semblent avoir été envoyés à l'État islamique au Khorasan pour tenir. Et en 2024, c'est toujours la source principale de financement.
D'autant qu'en Afghanistan même, les ressources se sont faites rares puisque les talibans contrôlent une grande partie des ressources minières. Donc il ne reste aux combattants de l'État islamique que le trafic de cigarettes. En gros, si j'ai bien compris vos travaux, Didier Chaudet. Ils font des appels aux dons aussi via le magazine La Voix du Khorasan. Qu'est-ce qui a changé pour eux le retour des talibans au pouvoir après leur prise ou reprise de Kaboul à l'été 2021? Depuis le début de cette série, on comprend que les djihadistes sont les meilleurs tueurs de djihadistes. C'est une formule de Vincent Fouché qui nous parlait mardi des combats entre Iswap et Djad autour du lac Tchad, ou en Syrie, les HTS qui réussissaient à frapper de façon chirurgicale les combattants de l'État islamique dans la province d'Idlib. C'est la même chose en Afghanistan?
Ce sont des gens qui sont connus, qui ont parfois combattu côte à côte contre un ennemi commun. Donc, ce ne sont pas des inconnus, ils ne les fantasment pas. Ils savent aussi que le mal qu'ils peuvent faire et en même temps les limites de leur organisation. Les talibans ont quand même fait une erreur fin 2021, début 2022. Ils ont frappé beaucoup trop fort tous ceux qui étaient associés à la mouvance salafiste en général. Les salafistes sont vraiment des puristes, donc ils regardent les talibans qui croient au pouvoir des rêves, qui...
Ils sont plus inspirés par le soufisme,
voilà,
les talibans.
Voilà, il y a une influence soufie directe qui était très forte du côté du Mollah Omar. En ça, il la rejette totalement. Et du coup, ils ont eu tendance à cibler ces populations plutôt que de les intégrer. Et du coup, l'État islamique Khorasan a pu utiliser ça. Mais à partir de la fin 2022, ils ont compris qu'ils devaient frapper de façon chirurgicale. Et ils ont appris aussi de l'État islamique Khorasan lui-même. C'est-à-dire qu'ils infiltraient des gens chez les talibans pour pouvoir les frapper de l'intérieur, y compris leur chef. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à récemment, en décembre 2024, quand ils ont tué un homme clé du réseau Haqqani. De la même manière, les talibans ont réussi à infiltrer des gens au sein de l'État islamique Khorasan et du coup ne cibler que les chefs et désorganiser en partie le mouvement. Ce qui fait qu'une partie de l'État islamique Khorasan aujourd'hui s'est repliée au Baloutchistan pakistanais.
Au Baloutchistan pakistanais. Donc au Pakistan, le Baloutchistan, c'est, on en parlait il n'y a pas très longtemps dans Culture Monde, dans une émission avec Georges Lefeuvre, le Baloutchistan où se trouvent des combattants séparatistes. Est-ce qu'il y a des contacts, une porosité entre les mouvements séparatistes du Baloutchistan et les combattants de l'État islamique au Khorasan ?
Il y a des liens, quoi qu'il arrive. On a tendance à présenter les séparatistes parce qu'ils sont laïcs, parce qu'ils sont dans une logique séculière. On les présente comme plus sympathiques, mais en fait, quand on combat un État, on s'acoquine avec tout le monde, y compris avec des djihadistes. Donc pendant une dizaine, douzaine d'années, djihadistes et séparatistes balouches sont bien entendus ensemble et l'État islamique Khorasan avait un traité de paix avec eux. Il n'y avait pas véritablement de problème. Mais le fait est que l'État islamique Khorasan, comme partout, essaye de gober des mouvements autour d'eux, essaye de débaucher des combattants, fait aussi des attaques sur place, y compris des gens qui peuvent être associés au mouvement séparatiste indirectement. Et ça n'était pas véritablement acceptable. Il y avait une logique anti-pakistanaise jusqu'en 2025. Mais à partir de janvier 2025, ils sont véritablement entrés en guerre, en tout cas guerre déclarée par l'État islamique Khorasan depuis mars dernier.
Donc, si on résume, Didier Chaudet, les ennemis proches des combattants djihadistes de l'État islamique au Khorasan, ce sont les talibans en Afghanistan, les Pakistanais, le Pakistan en général, puisque l'armée pakistanaise lui porte des coups à l'État islamique au Khorasan. Il y a donc cet étranger proche qui compte beaucoup d'ennemis de l'État islamique au Khorasan. Mais cette réflexion que mène l'État islamique sur la lutte à mener entre ennemis proches et ennemis lointains, jusqu'où va-t-elle cette réflexion-là et en quoi est-elle différente des ambitions globales d'Al-Qaïda qui avait aussi cette réflexion sur la lutte amenée entre un ennemi proche et un ennemi lointain ?
Exactement, il se positionne dans une discussion entre djihadistes qui existe depuis les années 80. Maintenant, bien sûr, ce sont des gens, encore une fois, qui comprennent la géopolitique. On a tendance à les présenter comme des fous de Dieu. On en a fait la même erreur avec les Iraniens, avec le régime iranien actuel. Ce sont des gens qui comprennent la géopolitique. C'est pour ça qu'ils voulaient tenir un territoire qui était à la frontière afghano-pakistanaise depuis 2016. Et ils n'ont pas réussi à le faire, mais par contre, ils ont compris qu'ils vivent maintenant dans un monde multipolaire. Donc, essayer de frapper les États-Unis qui sont bunkérisés ou aller frapper une ou deux ambassades en Europe, intérêt limité, bon, l'occasion faisant le larron, peut-être qu'ils essaieront de le faire, mais ce qui est vraiment véritablement intéressant, et là où ils ont frappé très fort, et d'ailleurs un certain nombre d'analystes chinois sont bien rendus compte, c'est trois pays en particulier, Iran, Russie, Chine, donc que des ennemis des États-Unis, et ils sont très focalisés. On peut entrer dans le détail si vous voulez,
oui, mais
sur la Chine.
Alors, sur la Chine, c'est d'autant plus intéressant que Didier Chaudet, vous êtes basé pour vos recherches à Hong Kong. Vous étudiez de près les liens qui existent entre État islamique et notamment djihadistes ouïghours, car ils existent, il y en a, ce qui ne justifie évidemment pas la répression des ouïghours dans le Xinjiang par Pékin. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord exactement le fait que la Chine soit considérée comme un des plus grands ennemis de l'État islamique au Khorasan? Est-ce que c'est d'abord parce que la Chine soutient les talibans en Afghanistan ou c'est parce que la Chine maltraite les Ouïghours?
La Chine est proche des talibans et peut aider à leur reconstruction. C'est le seul pays qui a les moyens pour les faire. Les Russes sont un petit peu comme nous, ils parlent beaucoup, mais ils n'ont pas forcément les moyens financiers de le faire. Les Chinois, eux, ont les moyens. Les Américains ne sont pas encore revenus en Afghanistan. Ça peut peut-être venir, mais on ne voit pas les Américains de l'America First mettre beaucoup d'argent à Kaboul. Donc du coup, Le problème pour l'État islamique au Khorasan, c'est que les talibans réussissent à se stabiliser grâce à la Chine. Mais la Chine est aussi très proche du Pakistan, qu'ils veulent déstabiliser, et de l'Asie centrale post-soviétique, dont les régimes ressemblent quand même beaucoup aux pays arabes des années 70-80, et qui pourraient être intéressants de déstabiliser également. Donc du coup, partout où ils veulent frapper, les Chinois se trouvent et aident. Même chose dans la relation Chine-Iran. Donc encore une fois, on en revient à une vision géopolitique. À côté de ça, il est très important dans le marché, entre guillemets, politique du djihadisme, de se distinguer. Et dès la fondation de l'État islamique au Khorasan, en fait, dès la préhistoire de l'État islamique tout court, vous avez eu un discours de ceux qui se sont retrouvés dans l'État islamique, puis dans l'État islamique au Khorasan, pour critiquer la politique chinoise par rapport au Xinjiang. Mais de fait, il s'agissait, c'était une bonne excuse pour dire aux réfugiés ouïghours, venez en Syrie, on va construire le paradis sur terre, venez combattre à nos côtés. Donc on le voit dans le travail de propagande qui est fait dès 2009, donc vraiment la préhistoire avant que l'État islamique véritablement émerge. Dès la période 2015, il est très clair que le but, c'est d'attirer des Ouïghours, de les indoctriner, de les faire se battre en Syrie, installer un califat en Syrie et ensuite aller frapper au Xinjiang.
Donc d'abord ces djihadistes ouïghours que des sources israéliennes et syriennes estimaient à l'époque de la guerre civile en Syrie à 5000, à peu près 5000 combattants ouïghours actifs dans différents groupes djihadistes pendant la guerre civile, alors principalement manifestement dans la province d'Idlib, même si ensuite ils ont pris possession de villages chrétiens abandonnés et s'y sont installés. Ces ouïghours, vous dites qu'ils envisagent de mener le djihad en Chine, au Xinjiang, dans la province où les Ouïghours sont aujourd'hui réprimés.
Ah, totalement, c'est leur rêve d'y retourner. Justement, là-dessus, un de leurs problèmes, ce sont les talibans, qui ont refusé une telle approche. Aujourd'hui, les djihadistes Ouïghours ont en fait leur direction qui se trouve en Afghanistan, qui reste réfugié sous la protection des talibans, mais une protection plus résidence surveillée qu'autre chose. Et vous avez la masse des combattants qui, eux, sont en Syrie, et qui ont le droit de partir, et qui en fait voudraient revenir en Afghanistan, et à partir de là essayer d'infiltrer au Xinjiang. Parce que s'ils réussissent un coup, une fois, leur visibilité serait énorme, et qui d'autre pour les aider que l'État islamique au Khorasan, qui vraiment a fait tout un travail idéologique sur le sujet. Je pense à un article du journal La Voix du Khorasan, qui n'est pas ma lecture de prédilection, mais c'est le journal des djihadistes de l'État islamique au Khorasan. Et leur article, ça s'intitule « Rêverie impérialiste en Chine ». Et en fait, quand vous lisez l'analyse, je n'irai pas jusqu'à dire à un certain nombre d'étudiants de géopolitique de le lire avec attention, mais c'est une analyse géopolitique pure. Les Chinois sont nos ennemis. Partout, ils pourraient aider nos ennemis partout, donc il faut les déstabiliser, eux, leur faire peur, détruire leur route de la soie pour qu'ils se replient sur eux-mêmes comme ils l'ont fait par le passé et pour qu'on puisse faire tout ce qu'on veut en Asie centrale et en Asie du Sud.
Donc l'ennemi chinois désigné, comme vous le disiez, dès la préhistoire de l'État islamique, al-Baghdadi d'ailleurs à l'époque désignait aussi la Russie comme un ennemi. Dès 2014, dans son premier discours qui proclamait le califat, il divisait le monde en deux camps, celui des musulmans et des moudjahidines d'un côté et de l'autre, celui qui est dirigé, je le cite, par l'Amérique et la Russie mobilisés par les Juifs. C'était ces mots. La Turquie est aussi un ennemi à combattre. La Turquie qui, de son côté, est très active dans la lutte contre l'État islamique au Khorasan. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a même contribué aux difficultés actuelles de ce groupe ?
Ah, totalement. En fait, très clairement, si on veut désigner des pays qui nous ont rendu une fière chandelle dans la lutte contre l'État islamique au Khorasan, il faut mettre en avant la Turquie comme le Pakistan. Ce sont des acteurs, notamment depuis 2024, qui ont aidé au démantèlement, en partie en tout cas, des réseaux de financement qui passaient pas mal par la Turquie, notamment par la crypto-monnaie. Et aussi
Monero, je ne sais plus comment ça s'appelle.
C'était la TRAN, si mes souvenirs sont bons. Parce qu'elle est très difficile à tracer, donc elle est parfaite, boîte installée à Singapour, enfin tout le team pour réussir à éviter les actions américaines. Et en fait, les Turcs ont déstabilisé ce financement et ils ont déstabilisé également la section qui s'occupait des attaques extérieures. Par une coopération turco-pakistanaise, on a vu notamment le groupe qui avait en son sein les gens qui ont attaqué l'ambassade des États-Unis le 26 août 2021 ou ceux qui ont fait l'attaque en Iran en janvier 2024. On les a vus tomber par une enquête de 7 mois menée en particulier par le Pakistan mais avec l'aide de la Turquie. Et de fait, le réseau de crypto-monnaies de financement par crypto-monnaie en Turquie a été en partie déstabilisé par le travail du contre-terrorisme turc. Donc chapeau à eux.
Turquie, on peut leur faire d'autres reproches. D'ailleurs, ça sera l'objet de Culture Monde demain avec Mélanie Chalando sur l'actualité, mais en tout cas sur la lutte antiterroriste. En effet, la Turquie a été elle-même très meurtrie par le terrorisme de l'État islamique au Khorasan, l'attentat à l'aéroport d'Istanbul en juin 2016, l'attaque contre la discothèque Le Club Rena à Istanbul en 2017, commis par un Ouzbek d'ailleurs, Abdulkadir Macharipov, qui avait été formé en Afghanistan par Al-Qaïda avant de changer d'allégeance avec les de l'État islamique, donc une véritable illustration de ce que vous nous racontiez tout à l'heure, Didier Chaudet. L'ONU, aujourd'hui, estime que la Turquie est appréhendée par l'État islamique du Khorasan comme une possible future plateforme logistique pour lui permettre de frapper plus efficacement l'Europe. Pourquoi, Didier Chaudet, de toutes les branches de Daesh, pourquoi est-ce celle du Khorasan qui commet ou tente de commettre des attentats en Europe, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas, à Stockholm, à Strasbourg, à Paris, à Lyon, Saint-Étienne et ailleurs ?
Elle a réussi à survivre en partie par cette logique attaque locale, attaque internationale. Elle est le produit d'un terreau qu'on a laissé se développer depuis les années 80. C'est plus facile de radicaliser des gens, y compris des gens qui sont déjà des combattants islamistes, en Afghanistan et au Pakistan ailleurs, parce que depuis les années 80, on utilise ce terreau dans nos grandes luttes géopolitiques, y compris nous, occidentaux, dans la lutte contre les soviétiques dans les années 80. Donc vous avez des gens qui ont des traditions familiales maintenant, quasiment, de djihadistes. Ça ne se trouve pas dans le Sahel. Dans le Sahel, on a les petits derniers qui avancent vite, certes, mais en Afghanistan, au Pakistan, hélas, on a l'expérience.
L'expérience et des voisins, notamment la Chine, qui sont bien pratiques aussi pour attirer de nouveaux combattants, parce que j'imagine que ce discours anti-chinois séduit aussi beaucoup en Asie centrale.
Exactement. Le but, c'est d'attirer non seulement des Ouïghours, mais aussi des centres asiatiques, mais aussi des gens en Asie du Sud qui rejettent non seulement l'Inde, mais aussi l'influence chinoise.
L'ONU aujourd'hui parle de l'État islamique au Khorasan en évoquant 3 à 6 000 combattants. Alors les estimations vont toujours du simple au double, ce qui est quand même très compliqué toujours de savoir où se trouve la réalité. Peut-être Didier Chaudet, avant d'entendre le focus, que peut et que doit faire la lutte antiterroriste, le contre-terrorisme, avec spécifiquement une organisation comme l'État islamique au Khorasan ?
Déjà, en général, par pitié, se concentrer sur les groupes véritablement djihadistes. Je vis loin de France, mais j'entends les débats sur la question de l'islamisme djihadisme, et je trouve que parfois on essaie. J'ai entendu parler de frérisme, j'ai entendu parler de djihadisme d'atmosphère. On a le droit, si on veut, mais j'avoue que je préfère les analyses concrètes, et les analyses concrètes, ce sont les groupes qui, eux, veulent véritablement nous frapper. Ils sont difficiles à analyser, il faut connaître les terrains. Vous avez écouté des gens passionnants sur la version africaine de l'État islamique. Je ne connais pas, je vais écouter avec grand intérêt. On a chacun nos spécialités, mais il faut se concentrer sur ces territoires, sur ces territoires-là, et il faut se concentrer sur ces groupes-là. Ils ne sont pas très nombreux, on ne peut pas devenir forcément conseiller du prince ou passer beaucoup dans les médias quand on en parle, mais ce sont eux le problème.
D'où votre grand soin à utiliser très régulièrement le conditionnel, Didier Chaudet, comme j'ai pu le noter. C'est vrai qu'on entend aujourd'hui parler de djihadisme d'atmosphère, c'est expliquer la pluie par une atmosphère pluvieuse, comme le dit Olivier Roy. On n'est pas plus avancé. Vous le citez dans l'un de vos articles. Comment se mobilisent aujourd'hui les États pour lutter contre le terrorisme? Eh bien, encore faut-il que cette menace terroriste soit désignée et connue. Et en Russie, par exemple, ça n'est pas tellement évident. On en parle en focus jusqu'après ce groupe russe Picnic qui se produisait au Crocus City Hall le jour de l'attentat du 22 novembre 2024.
Не стальная игла, а грудь мне пробила сегодня грудь. Оттолкнусь от земли и в путь. Не забудь меня, не забудь. Уж не чудится лето мне. Это небо и дождь в окне. Жаль, не греет пути звезда. Нарисовано, что ли? Да.
Aiguille du groupe russe Picnic qui se produisait au Crocus City Hall à Moscou le jour de l'attentat de mars 2024, perpétré par quatre ressortissants tadjiks au nom de l'État islamique au Khorassan, dont nous parle notre invité Didier Chaudet pour le dernier épisode de notre série sur les groupes djihadistes face aux États. Le plus international d'entre tous, la Russie fait partie de ses cibles. Comment celle-ci se prémunit de la menace? Encore faut-il que Vladimir Poutine la reconnaisse pour ce qu'elle est.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Les terroristes, assassins, sous-hommes, qui n'ont pas de nationalité et ne peuvent pas en avoir une, connaîtront un destin peu enviable, le châtiment et l'oubli. Ils n'ont pas d'avenir.
Vladimir Poutine, au lendemain de l'attentat du 22 mars 2024, dans la salle de concert du Crocus City Hall, dans la banlieue de Moscou, attentat qui avait fait 149 morts et 150 blessés, revendiqués par l'État islamique au Khorassan. Mais Vladimir Poutine, à l'époque, avait préféré désigner l'Ukraine comme responsable. Qu'a-t-il entrepris depuis pour lutter contre l'État islamique qui compte aujourd'hui la Russie parmi ses cibles privilégiées? Bonjour Lucas Aubin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de la géopolitique de la Russie. Il se trouve qu'aujourd'hui sort la toute nouvelle version de votre ouvrage « Géopolitique de la Russie » paru aux éditions La Découverte. Alors, un an et demi maintenant, après cet attentat du Crocus City Hall, est-ce que Vladimir Poutine désigne plus précisément l'État islamique comme responsable? Est-ce qu'il est prêt à aller chercher ses djihadistes jusque dans les chiottes, comme il le disait des séparatistes tchétchènes?
Alors, figurez-vous que non, la réponse est non. Il est beaucoup plus flou que ça a pu être le cas à l'époque des années 90 et de la deuxième guerre de Tchétchénie, hein, notamment. Alors, effectivement, si il désigne quand même l'EIK, il rappelle que, selon lui en tout cas, l'Ukraine et plus largement l'Occident, en fait, seraient finalement les détonateurs de cette attaque et plus régulièrement des attaques qui ont lieu contre la Russie depuis quelques années maintenant. En fait, on pourrait estimer que Vladimir Poutine, dans une certaine mesure, est enfermé dans son narratif anti-occidental qui prime finalement sur la défense de la Russie vis-à-vis justement de certaines organisations terroristes comme l'EIK.
Avec quelles conséquences pour les politiques sécuritaires s'il ne désigne pas nommément cet adversaire-là? Est-ce qu'il met les moyens pour lutter contre?
Alors, il met les moyens, mais pas de la façon dont on pourrait l'entendre. C'est-à-dire que on assiste en réalité depuis le 24 février 2022, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, on assiste à une verticalisation du régime russe et finalement à un État russe qui devient de plus en plus policier. Alors, en réalité, ça n'est pas uniquement la lutte contre le terrorisme qui s'intensifie, hein, c'est aussi la lutte contre les opposants au régime de Vladimir Poutine, la lutte évidemment contre l'Ukraine et la lutte plus largement contre l'Occident. Il y a cette idée finalement qu'il y aurait une cinquième colonne en Russie, finalement des espions, finalement des individus, des moucherons comme lui il les appelle, hein, je mets des guillemets évidemment, qui seraient là pour détruire la Russie de l'intérieur. Et évidemment, on le sait de l'extérieur, notamment depuis l'Occident, que justement ces organisations terroristes ont pris pour la Russie, etc. Mais pour Vladimir Poutine, ce serait considéré que c'est un échec. Alors, il ne dit pas clairement, et il ne met pas clairement les moyens uniquement dans cette direction-là, parce qu'il faut le rappeler, hein, le pacte en fait de Vladimir Poutine vis-à-vis de sa propre population, c'est laissez-moi la politique et en échange, vous avez la stabilité. Alors, il a la politique, c'est très clair, hein, mais la stabilité, les Russes, clairement, ne l'ont pas.
Car en attendant, l'État islamique au Khorassan prospère en Russie. Est-ce qu'on comprend mieux, un an et demi après l'attentat, comment les djihadistes centra-asiatiques de l'attentat du Crocus City Hall se sont radicalisés en Russie ?
Alors, ce qu'on comprend très concrètement, c'est que depuis le 24 février 2022, même avant, en fait, les flux migratoires entre certains pays d'Asie centrale et la Russie se sont intensifiés pour tout un tas de raisons. Hein. La Russie a besoin de soldats, entre guillemets, de chair à canon sur le front ukrainien, et la Russie a besoin de main-d'œuvre tout court, hein, que ce soit pour faire les sales boulots à Moscou, à Saint-Pétersbourg, etc. Et donc, on a beaucoup d'immigrants Tadjiks notamment, mais aussi Kirghizes, qui créent un flux depuis leur pays d'origine vers la Russie. Et via ce flux, vous avez potentiellement un certain nombre d'individus qui peuvent être radicalisés, qui peuvent arriver sur le territoire russe et préparer un certain nombre d'attentats. Donc on est face finalement à une contradiction vraiment majeure pour la Russie. L'Asie centrale est l'une de ses zones d'influence privilégiées dans l'espace post-soviétique, bien sûr. Pour autant, le risque qui est lié à ce flux migratoire est également très clair. Et depuis notamment que l'Afghanistan a changé de régime, depuis que les Américains sont partis et que les talibans les ont remplacés, on estime que le risque justement de radicalisation s'est intensifié et que de fait, les flux migratoires pourraient engendrer davantage d'attentats, ce qu'on a pu voir évidemment au début de la guerre en Ukraine.
Plusieurs travaux, dont ceux par exemple d'Olivier Ferrando, montrent que les terroristes, les djihadistes qui opèrent en Russie se sont pour la plupart radicalisés en Russie et ils n'étaient pas d'abord radicalisés avant d'arriver en Russie. Est-ce qu'il y a pour ces personnes qui se sont radicalisées dans les mosquées en Russie, qui sont parfois leur seul lieu de sociabilité, exclus qu'ils sont, comme vous le dites, d'une certaine vie sociale, est-ce qu'il y a un ressentiment particulier ? Est-ce que l'État islamique a des griefs idéologiques, religieux, précis à l'encontre de la Russie ?
Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et vous avez tout à fait raison de rappeler que certains se sont radicalisés en Russie même. Pourquoi ? Alors déjà parce que pour beaucoup de ces membres de djihadistes, il y a cette idée que le Kremlin, en réalité, a du sang sur les mains. C'est-à-dire que depuis les interventions soviétiques et russes en Afghanistan, en Tchétchénie, ou encore en Syrie, finalement, la Russie mène une guerre contre cet islam. Et donc, il faut répondre à cette guerre. Et c'est intéressant parce que, vu de l'extérieur, souvent, on oublie en fait ce pan, évidemment, de la Russie qui est pour autant très présent. Et alors, c'est là toute la contradiction pour Vladimir Poutine, puisque lui explique régulièrement à sa propre population et aux populations étrangères que son régime est le pays, la Fédération de Russie est multiconfessionnelle, multiethnique, multi-religieuse, etc. La réalité, c'est que existe, par exemple, aujourd'hui en Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans beaucoup de grandes villes, un racisme qui existe, hein, à la fois à l'encontre des minorités tadjiks, par exemple, ou kirghizes, mais aussi à l'égard des minorités musulmanes. Parler, par exemple, à un russe de Moscou, alors je caricature évidemment à grands traits, hein, mais des musulmans de Tchétchénie, et vous verrez la réaction, souvent, qui est vraiment, qui peut s'apparenter parfois à du racisme. Et donc, cet isolement de la part de certaines minorités, musulmanes, tadjiks, kirghizes, etc., est un terreau, en tout cas, favorable à une radicalisation.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs, certains séparatistes tchétchènes avaient prêté allégeance à l'État islamique en 2015. Est-ce qu'on sait où en est cette radicalisation, s'ils continuent à recruter dans la région, si Vladimir Poutine, aidé en cela par le président de Tchétchénie, a amorcé une forme de lutte qui précisément les cible, eux ?
À l'échelle de la Tchétchénie, évidemment, Ramzan Kadyrov, le leader de la région, de la République, ne cesse de rappeler et de dire à Vladimir Poutine qu'il gère le problème, entre guillemets. Donc c'est une des affaires locales, à savoir repérer les individus qui pourraient se radicaliser et finalement les faire rentrer dans le giron de Kadyrov et du coup dans le giron russe. Donc finalement, à l'échelle de la Tchétchénie même, Je dirais qu'il est très difficile aujourd'hui de se radicaliser. Le régime de Kadyrov est extrêmement autoritaire, vertical, très peu d'espace de liberté. Par contre, ces individus, soit partent ailleurs en Russie, dans des endroits peut-être moins contrôlés, soit partent carrément à l'étranger. La diaspora tchétchène est quand même assez déployée et peut potentiellement se déployer, se développer ailleurs. Donc, on est sur un contrôle aujourd'hui partiel. Et évidemment, l'attaque du Crocus City Hall en est l'illustration, puisque ça n'aurait pas été possible si les moyens avaient été mis en œuvre pour justement éviter cette attaque.
Peut-être pour conclure, à l'époque, les États-Unis avaient prévenu Moscou de l'imminence d'un attentat. Mise en garde n'avait pas été écoutée, me semble-t-il, à l'époque par le Kremlin. Est-ce que depuis, une coopération s'est mise en place, bon an mal an, entre Russie et Occidentaux au sens large, mais peut-être aussi avec les États-Unis de Donald Trump plus particulièrement ?
Alors pour le moment, non, on peut tout à fait l'imaginer en revanche à l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est que finalement le narratif, comme on dit, pour employer un mot à la mode, le narratif du Kremlin sur cette question est l'un des nœuds du problème en fait. Le narratif c'est quoi ? C'est que il a trois niveaux en fait. C'est idéologique d'une part, donc on délégitime l'Occident, on dit que finalement tout ce désordre vient de l'Occident, du fait par exemple de la présence américaine en Afghanistan, etc., etc. Deuxième point, ce narratif il est sécuritaire, c'est-à-dire qu'il faut verticaliser l'État pour faire en sorte de combler tous ces problèmes et d'éviter ces radicalisations et d'éviter du coup l'influence par ricochet de l'Occident. Et enfin, le troisième élément, il est évidemment politique, il s'agit de s'attirer le soutien de la population pour détourner en fait la colère potentielle des Russes. Et donc l'idée c'est de dire, nous faisons face à une menace terroriste globale soutenue dans une certaine mesure par l'Occident. Donc finalement, si à un moment donné il y a un échec, oui, c'est dur, bien sûr, mais c'est pas tout à fait de notre faute, parce que qui pourrait complètement lutter contre cet Occident collectif, décadent, etc., etc. Donc on est dans cette logique-là. C'est ce narratif qui est mis en place. Après, est-ce qu'il peut fonctionner sur le long terme ? C'est évidemment difficile à dire, puisque plus un État se radicalise autour d'un individu, plus il est dépendant de celui-ci. Et Vladimir Poutine reste évidemment un homme comme les autres.
Merci beaucoup, Lucas Aubin.
Merci, Julie Gacon.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et aujourd'hui paraît la toute nouvelle version de votre ouvrage Géopolitique de la Russie aux éditions La Découverte. Didier Chaudet, si les ambitions de l'État islamique au Khorassan sont internationales, est-ce que son avenir, lui, est afghan ?
Totalement, il y a toujours un désir de reprendre du poil le label en Afghanistan même. Ils ont été rejetés à partir de 2023 vers le Baloutchistan pakistanais. Il y a toujours ce désir de voir les talibans se fragmenter entre radicaux et pragmatiques, disons plutôt pragmatiques que modérés, et réussir à attraper un bout de territoire afghan de la même manière qu'ils ont pu le faire entre la Syrie et l'Irak, profiter des tensions géopolitiques, des faiblesses politiques internes, pour réussir à recréer un califat.
Et donc, en attendant, ils patientent dans leurs montagnes entre Afghanistan et Pakistan, sûrs que le régime taliban va finir par tomber, et le régime au Pakistan aussi, comme vous l'expliquez dans vos travaux, Didier Chaudet. Je vous remercie beaucoup de vous être arrêté dans le studio de Culture Monde depuis Hong Kong. Vous êtes géopolitologue spécialiste de l'Afghanistan et de son environnement régional, rattaché à l'Observatoire de la Nouvelle Eurasie et membre du comité de rédaction de la revue Défense Nationale. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est arrivé hier soir à Berlin où il doit recevoir des soins médicaux, Catherine Dutu. Après avoir été emprisonné pendant un an en Algérie, Boualem Sansal a été gracié hier.
Et dans une Algérie qui fait taire les voix dissidentes, les quotidiens Al-Fajr et Le Soir d'Algérie ne font que reprendre le communiqué officiel de la présidence. Abdelmadjid Tebboune motive sa grâce par des motifs humanitaires. Boualem Sansal, 81 ans, souffre d'un cancer de la prostate, rappelle le Guardian et le New York Times. Il avait été arrêté à Alger l'an dernier et condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale, après avoir déclaré que la France avait injustement cédé des territoires marocains à l'Algérie durant la période coloniale. Hier, le pouvoir algérien a finalement accédé à la demande de libération de grâce formulée par l'Allemagne, un pays amis, selon les termes officiels, encore repris dans les pages du quotidien El Watan, qui titre d'ailleurs sur Boualem Sansal gracié. Mais pour le journal algérien Twala, plus critique car il publie en ligne, l'affaire Sansal expose deux cynismes parallèles. Celui d'une Europe qui distribue la compassion selon ses intérêts et celui d'un régime algérien qui troque la rigueur judiciaire contre un dividende symbolique. Derrière les mots du communiqué officiel évoquant des considérations humanitaires, ajoute le journal Twala, se cache en fait un acte éminemment politique, un mouvement tactique. En accédant à la demande de son homologue allemand, Abdelmadjid Tebboune a en fait cédé à une pression diplomatique étrangère, discréditant au passage la justice algérienne qui a condamné d'autres citoyens pour les mêmes chefs d'accusation sans qu'aucun chef d'État étranger ne plaide leur cause, écrit Twala. En répondant favorablement aussi à Berlin plutôt qu'à Paris, Tebboune se ménage une sortie dans un dossier sensible tout en évitant l'impression d'une concession à l'ancienne puissance coloniale, analyse Twala. Quant à l'Allemagne, poursuit le journal en ligne algérien, elle se trouve dans le cas Sansal, l'occasion de réaffirmer sa stature morale à peu de frais, alors que Berlin était selon Twala embarrassé par son silence face à la tragédie gazaoui. Mais cette manœuvre diplomatique a un coût, affirme le journal Twala, elle sape la crédibilité d'une justice déjà perçue comme instrumentalisée. Lorsque la clémence devient une variable d'ajustement dans le jeu des relations internationales, la morale, selon Twala, n'est plus un principe, mais une posture.
Et la presse revient également sur tous les autres détenus d'opinion qui restent derrière les barreaux en Algérie.
Le journal en ligne Le Matin d'Algérie, qui tient à conserver la liberté éditoriale qu'avait Le Matin en version papier fermée par les autorités en 2004. Le Matin d'Algérie donc dénonce l'énième condamnation arbitraire qui a visé cette semaine le courageux Mohamed Tadjadit. Ce trentenaire, surnommé le poète du Irak, mouvement pro-démocratie qui a secoué l'Algérie en 2019, rappelle Jeune Afrique, poussant inexorablement vers la sortie le président d'alors, Abdelaziz Bouteflika, qui est mort depuis.
وفي الخارج دور على روح وسوار ونسى باللي الشعب هو النخبة ومصير كل قرار.
Mohamed Tadjadit parle du peuple comme de l'élite dans un pays qui refuse de le voir, avec un pouvoir qui refuse le dialogue, et celui qui est surnommé le poète du Irak en appelle toujours à la révolution. Mohamed Tadjadit, qui avait déclamé des vers lors de manifestations pro-démocratie, anti-corruption, a donc été condamné mardi à 5 ans de prison pour apologie du terrorisme. Il avait déjà fait 6 allers-retours en prison, rapporte Jeune Afrique, pour des accusations sans fondement, selon une vingtaine d'ONG, dont Amnesty International, qui voit un signal alarmant à toutes celles et ceux qui élèvent la voix pour défendre les droits humains en Algérie, écrit Jeune Afrique. Chut! Une lourde chape de silence écrase l'Algérie, écrit Le Matin d'Algérie. Combien d'Algériennes et d'Algériens embastillés sans que leur situation ne soit connue, demande le journal en ligne. Il compte au moins 250 détenus d'opinion en Algérie, laissés dans l'oubli et condamnés au silence. Le Matin d'Algérie alerte sur la fuite en avant autoritaire dans laquelle le pays s'est lancé depuis 5 ans, alors que les promesses du Irak et ses revendications sont bel et bien enterrées. La réalité est donc celle d'un verrouillage brutal de toute forme de contestation, qu'elle soit politique, sociale ou médiatique, avec un simple hashtag, prévient Middle East Eye. Manish Radi, je ne suis pas satisfait, qui a été largement partagé sur les réseaux sociaux et qui a envoyé de simples citoyens en prison. La répression ne se limite pas à l'incarcération physique, ajoute Le Matin d'Algérie. Elle s'étend à l'espace symbolique, là où se construisent la mémoire, la contestation et l'indignation collective. Tant que ces détenus restent hors du champ médiatique, le pouvoir algérien garde la main sur le récit national et empêche toute identification de la société au combat. Si vous avez la moindre question sur cette chronique, une adresse pour m'écrire, fcrdpi@radiofrance.com. C'est à partir de vos questions que nous construirons la revue de presse interactive du samedi.
Merci Catherine Dutu. Et puisque vous disiez que Boualem Sansal a bénéficié d'un comité de soutien, en tout cas que sa grâce est due à un comité de soutien très actif, je rappelle qu'à Culture Monde, nous adressons toujours nos pensées au journaliste Christophe Glaise, emprisonné en Algérie, journaliste pour le journal SoFoot. Son procès en appel aura lieu dans quelques semaines. Demain, dans Culture Monde, Mélanie Chalandon recevra Didier Billion et Göçin Erdi pour parler de la Turquie après les réquisitions du procureur d'Istanbul à l'encontre du maire de la ville, Ekrem İmamoğlu, grand adversaire de Recep Tayyip Erdogan, qui encourt ni plus ni moins pour sa part que 2430 années de prison. Une table ronde précédée d'un retour des États-Unis, un vidéaste Max Lollom qui, 10 ans après un échange scolaire, est retourné dans sa famille d'accueil en Oklahoma pour comprendre pourquoi le vote Trump